La chronique des matières premières par Benjamin Louvet, gérant de Ophi Asset Management.
Il ne fait plus de doute que nous devons transformer notre système énergétique, faire une transition loin des énergies fossiles vers un monde décarboné. Mais on a déjà eu l'occasion d'en parler ici, cette notion est très nouvelle pour nous. On n'a jamais réalisé de vraie transition énergétique fonctionnant jusqu'à maintenant par empilement. On a pourtant décidé depuis plusieurs années de prendre le problème du climat au sérieux. Problème, il y a 10 ans, 80% de notre énergie primaire était d'origine fossile. 10 ans après, et alors que l'Europe, Allemagne en tête, la Chine et d'autres ont fortement accéléré le développement des énergies renouvelables, l'an passé, les énergies fossiles représentaient 80% de notre consommation d'énergie. En cause, les besoins toujours grandissants en énergie, notamment dans les pays émergents. La Chine a beau avoir des taux de croissance à deux chiffres des principales sources renouvelables, ses besoins lui imposent une croissance, certes moins importante en pourcentage, mais plus importante en volume de sa production de charbon. Les chiffres viennent de tomber pour 2020 et ils confirment cette tendance. 76% des capacités installées en Chine étaient des centrales à charbon l'an passé. Gardons-nous cependant de tout jugement de valeur en nous rappelant que l'Europe et les États-Unis sont responsables de près des deux tiers de toutes les émissions réalisées depuis le début de l'ère industrielle et qu'une partie des centrales construites en Chine l'est pour alimenter les capacités industrielles que ce pays a développées en remplacement de celles que nous fermions dans les pays développés. L'exemple de la France est sur ce point frappant. Si nos émissions directes ont reculé sur les 25 dernières années, notre empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions liées à notre production nationale, mais également aux produits que nous importons car nous ne les fabriquons plus, n'a, elle, quasiment pas changé. Ce constat étant fait, comment fait-on pour réaliser une transition et décarboner notre économie dans les délais impartis ? Les solutions de production d'énergie décarbonée à notre disposition sont limitées. Les énergies dites renouvelables, principalement le solaire photovoltaïque et l'éolien, l'hydraulique et le nucléaire. Ce dernier est très décrié car s'il n'émet pas de CO2, il pose le problème des déchets et du risque d'accident. Nous y reviendrons. On peut ajouter à ces solutions la géothermie, les agrocarburants, le biogaz et l'hydrogène, sources dont le potentiel est malgré tout limité. Pour ne prendre que l'exemple de l'hydrogène, au-delà du problème de rentabilité économique souligné dans un rapport par l'Académie des technologies, il faut avoir une idée de l'ordre de grandeur de nos besoins pour comprendre qu'il ne peut être qu'une partie de la solution. Selon un collectif de chercheurs, il faudrait déjà plus de 10 000 éoliennes ou une quinzaine de réacteurs nucléaires pour produire ne serait-ce que l'électricité nécessaire à la production de l'hydrogène que réclameraient les seuls avions qui décollent et atterrissent chaque jour d'un seul aéroport, celui de Roissy. Parmi les principales solutions, donc, le nucléaire et les renouvelables sont souvent opposés. Pourtant, ils ont des complémentarités importantes. Le nucléaire fonctionne bien en base, c'est-à-dire comme socle de consommation, essaie de mieux en mieux s'adapter, c'est-à-dire moduler sa production en fonction des besoins. Le problème, et c'est pour ça qu'il est si clivant et rencontre tant d'opposition, c'est le risque d'accident et la gestion des déchets nucléaires. Ces deux aspects sont problématiques, mais à bien y regarder, d'autres sources d'énergie ou d'autres activités, pourtant beaucoup moins décriées, présentent des dangers similaires sans être remises en cause. Prenons l'hydraulique par exemple. Personne ne réclame à cor et à cri la fermeture des barrages en raison de leur dangerosité. Pourtant, la plus grande catastrophe industrielle de tous les temps est la rupture du barrage de Bankiao en Chine, intervenue après le passage d'un typhon qui a fait plus de 150 000 morts dans les années 70. Plus près de nous, on peut citer la catastrophe du barrage de Malpasset, mais aussi les plans d'intervention d'un barrage comme celui de Vouglan dans le Jura. Si celui-ci cédait, il y aurait, quelques heures plus tard, une vague de 6 mètres de haut qui toucherait la ville de Lyon. Concernant les déchets, il y a là aussi débat. Il n'est pas question de nier le risque de tels résidus, mais notre activité humaine en produit bien d'autres, souvent bien moins contrôlés et tout aussi dangereux, mais que nous ne regardons pas. Ainsi, l'Agence à l'environnement allemande recommande l'enfouissement permanent dans des conditions comparables à celles retenues pour les déchets nucléaires pour des déchets comme le mercure et l'arsenic, tout aussi dangereux en cas de fuite et qui resteront dangereux toute la vie. Produire de l'énergie peut s'avérer dangereux, mais nous sommes arrivés à l'heure des choix et des arbitrages entre risques et avantages, coûts et bénéfices. Les énergies fossiles ont un bilan coût-bénéfice que l'on ne veut plus assumer. Elles menacent notre survie même et, plus directement, selon une étude récente d'un collectif de chercheurs des universités d'Harvard, Birmingham, Leicester et Londres, elles pourraient être responsables de près d'un mort sur cinq dans le monde. Reste que ces énergies représentent encore aujourd'hui l'essentiel de notre consommation et que toutes les solutions doivent donc être regardées sans passion. C'est d'ailleurs la teneur du propos du haut-commissaire au plan, François Bayrou, dans un document publié récemment qui appelle à reposer le débat de la transition énergétique sur des bases scientifiques, sans non-dit et sans a priori, afin de faire les bons choix. Rappelons que nous sommes pressés par le temps, ce qui implique qu'un mauvais choix n'est pas une option. C'est la conclusion à laquelle sont également arrivés les Américains, puisque et le secrétaire d'État Kerry et la conseillère du président sur les questions climatiques McCarthy souhaitent que le nucléaire fasse partie des énergies considérées comme vertes dans le cadre du nouveau plan d'infrastructure de l'administration Biden. C'est enfin l'avis rendu tout récemment par le groupe d'experts travaillant à la définition des énergies vertes dans le cadre de la taxonomie européenne. Le nucléaire devrait donc, comme le dit l'ONU ou l'Agence internationale à l'énergie par exemple, faire partie de la solution aux côtés de l'hydraulique, cela va sans dire, et bien évidemment des énergies renouvelables. Pourquoi ne pas nous contenter des énergies renouvelables dont le rapport coût-bénéfice est bien meilleur, me diront certains? Parce que là comme ailleurs, le bilan n'est pas si simple. Le premier défaut des principales énergies renouvelables est qu'elles sont intermittentes. Elles ne produisent pas quand on veut, mais quand il y a du vent ou du soleil. Or, il arrive, en particulier au moment où on consomme le plus, qu'on ne puisse compter ni sur l'éolien, ni sur le solaire. Le pic de consommation, par exemple, en Europe, a lieu l'hiver à 19h, heure à laquelle il fait nuit, et quand il fait très froid, c'est-à-dire généralement quand il n'y a pas de nuages pour retenir la chaleur, donc qu'il y a un anticyclone et donc qu'il n'y a pas ou peu de vent. Le stockage n'est a priori pas une solution viable à grande échelle dans l'état de nos connaissances actuelles du fait d'un manque de métaux pour assurer une part significative de stockage par rapport à notre consommation. La totalité des réserves de lithium du monde permettrait par exemple de construire une seule fois des batteries capables de stocker à peine plus de 1% de la consommation électrique mondiale annuelle. Plus généralement, il faut se sortir de la tête que l'on fabrique de l'énergie avec du vent. On fabrique de l'énergie avec des convertisseurs qui récupèrent l'énergie du vent pour la transformer en électricité. Pareil pour l'énergie solaire. Et ces transformateurs, éoliennes ou panneaux solaires, ne sont pas faits avec du vent, eux. Ils nécessitent du cuivre, de l'argent, de l'aluminium et beaucoup d'autres ressources. Or, celles-ci ont deux défauts majeurs. D'abord, elles sont disponibles en quantité limitée, ce qui était l'objet de ma dernière chronique, et qui pourrait transformer notre dépendance aux énergies fossiles en dépendance aux ressources métalliques. Et ensuite, l'extraction de ces minerais constitue une atteinte à la biodiversité d'une part et émet du CO2 d'autre part. Là encore, il faut faire des choix rationnels. Si l'extraction des métaux est polluante, les émissions de CO2 liées à la production des ressources minérales représentent environ 10% du total de nos émissions. Et ces ressources pourraient nous permettre de nous débarrasser des énergies fossiles responsables, elles, de 70% de nos émissions. Le ratio coût-bénéfice est évident. Vous l'aurez compris, la transition énergétique ne sera pas si simple. Ce qui voudrait vous faire croire le contraire, au mieux se trompe de bonne foi, au pire vous mente. La transition nécessite des choix, des arbitrages éclairés, que nous devons faire rapidement, sans a priori d'aucune sorte, en regardant simplement l'intérêt collectif et en oubliant tous les calendriers particuliers. Le meilleur exemple de tout ça est peut-être ce qui est arrivé aux Pays-Bas. Une association écologiste a attaqué en 2015 le gouvernement pour inaction climatique et celui-ci a finalement été condamné en 2019. Le gouvernement n'a eu d'autre choix que de raisonner en comptable du carbone pour rapidement améliorer son bilan. Ce qui rend cette histoire cocasse, c'est que les écologistes ont eu gain de cause et que le gouvernement a dû revoir sa copie. Mais la conclusion n'était peut-être pas celle attendue. Le gouvernement hollandais a décidé de remettre à l'étude son programme nucléaire, seule solution selon lui pour tenir ses engagements en temps et en heure. La solution semble, là comme ailleurs, dans un équilibre savant entre coûts et bénéfices de l'ensemble des solutions à notre disposition. Sortons donc des postures et des simplismes et commençons vraiment la transition énergétique sans dogme ni tabou.
La chronique des matières premières, une émission à réécouter et télécharger sur radio-patrimoine.fr, l'application mobile Radio Patrimoine et tous les agrégateurs de podcasts.